Alors, on va continuer ensemble le livre des Actes, acte 21, et on va lire les versets 27 à 40, 27 jusqu'à la fin du chapitre. À la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant « Homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout » et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut en émoi, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul, le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était dans la confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda à qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, ne pouvant donc rien apprendre de certains, à cause de ce tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands ? Je suis juif, reprit Paul, de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun, le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit, et Paul, parlant en langue hébraïque, dit, et il continue, « Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai à dire maintenant pour ma défense. » Donc, Paul a fait ce que Jacques et les anciens de Jérusalem avaient suggéré. Vous vous souvenez, comme ils s'inquiétaient de cette rumeur, comme quoi eh bien, Paul ne pratiquait pas la loi de Moïse, ils avaient dit « il vaut mieux que tu payes pour la dépense de 4 personnes qui avaient fait un vœu à l'Éternel. » Et il fallait payer pour les sacrifices, il fallait payer pour des choses comme cela. Et donc, Paul, en payant pour le vœu de ces 4 hommes, allait permettre aux Juifs de comprendre que, ben non, ils respectaient aussi la loi. Et donc, la rumeur était fausse. Alors, néanmoins, on voit que ce ne sont pas apparemment les Juifs chrétiens qui ont posé problème à l'apôtre Paul, mais plutôt les Juifs qui venaient d'Asie, semble-t-il pas les chrétiens, en fait. Hein. Il est probable que les chrétiens de Jérusalem ont compris, ben oui, vraiment, Paul est respectueux de la loi de Moïse. Mais alors, eh bien, ces Juifs d'Asie vont soulever la foule contre lui. Et on voit que c'est sur des suppositions que c'est arrivé. Hein. Il dit au verset 29, « Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. » Donc, ils se disaient, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il a pris un païen, il a fait entrer dans le temple. Mais c'était une supposition, c'était complètement faux. C'était complètement faux. Et ça nous amène à venir à, comment dire, à être attentif, à ne prendre garde. Hein. Il ne faut pas se baser sur des impressions, sur des suppositions, sur des on-dit. Il faut être sûr sur des faits hein, quand on porte un jugement sur quelque chose. En France, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Jean connaît bien ça. Hein. Eh bien, voilà, nous aussi, on doit user de la présomption d'innocence. Hein. Vis-à-vis des uns et des autres et ne pas être tranché et être un juge trop rapidement. Et c'est à partir de cette supposition que peut-être Paul avait laissé entrer un païen dans le temple que la situation, le statut de Paul va changer complètement. Jusqu'à présent, Paul était un homme libre. Voilà, il voyageait, il circulait. Et maintenant, ça va être un prisonnier. Jusqu'à la fin, il va rester prisonnier de Rome. Il va être dans les chaînes, ou ici on le voit dans les chaînes, ou bien il va être assigné à résidence avec un garde auprès de lui, donc quand même une certaine aisance, mais obligé de rester dans une maison. Et on voit que cette charnière, donc ce passage de la liberté à l'emprisonnement, ne va pas être sans douleur. Ça va être difficile. Le prophète Agabus avait dit, les hommes de Jérusalem vont le lier, etc. C'est arrivé. La foule s'est soulevée contre lui. On l'a calomnié. On l'a arrêté avec violence. On s'est saisi de lui. On l'a traîné pour l'emmener dehors. Et puis, on l'a frappé. Et on l'a traité finalement comme si vraiment il avait commis quelque chose qui était impur. Et il faut imaginer, c'était viscéral, c'était en eux. Il l'avait commis comme un sacrilège. Quand on voit comment se passait quelqu'un qui avait fait une désobéissance à la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était souvent la lapidation, on peut imaginer la haine, la colère de ces Juifs qui avaient envie pour eux. Il était impur, il était mauvais, il venait de faire quelque chose que Dieu désapprouvait. Alors, il s'est pris une pluie de coups de poing et de coups de pied. Quand j'étais jeune, plus jeune, un jour, je me suis retrouvé dans une cité et sous une pluie de coups de poing et de coups de pied aussi, par une dizaine de jeunes. Mais j'imagine que ça n'avait rien à voir avec ce que Paul a vécu là, parce que finalement, je m'en suis assez bien sorti. Mais là, ils étaient vraiment pleins de hargne et pleins de haine vis-à-vis de lui. Ils méritaient la mort pour eux. Et c'est là, à ce moment-là, que Dieu intervient et que Dieu sort Paul de ça, puisqu'il permet que le tribun et les soldats arrêtent tout, se saisissent de lui et le mettent plus en sécurité. Et on voit que c'est au moment où on se sent le plus seul, au milieu de l'épreuve, qu'à ce moment-là, Dieu tend sa main et puis retire son enfant parce qu'il fixe des limites et il dit « voilà, ça va jusqu'ici, mais pas au-delà ». Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu, moi, après coup, quand je me suis... par rapport à ce fait où je me suis retrouvé dans cette cité, où j'ai eu ces problèmes, je me dis qu'après coup, Dieu a permis que ça s'arrête et que ça soit jusqu'ici. C'était comme si c'était une leçon avant l'heure. Jusqu'ici, mais pas au-delà. Parce qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a dit « arrêtez !» Et puis hop, ils se sont arrêtés, j'ai pu me relever et partir. Et Dieu, fixe des limites. Il dit « voilà, jusqu'ici et pas au-delà. » Et c'est vrai. Je pense, pour ceux qui vont hériter du salut et pour ceux qui sont sauvés, ici comme l'apôtre Paul, ça s'est arrêté au moment où Dieu l'avait décidé. Mais les Juifs ne pouvaient plus le toucher, mais quand même, Paul, à ce moment-là, est enchaîné avec des grosses chaînes. Et il y a toujours ces cris « Fais-le mourir ! Fais-le mourir !» Donc, la chose n'est pas arrêtée, l'épreuve n'est pas arrêtée. Paul était juste passé entre des mains différentes. Mais ce qui est frappant dans la réaction de l'apôtre Paul, c'est qu'il se laisse faire. Parce que dans notre texte, il ne semble pas qu'il se soit défendu. Il savait que cela allait arriver, puisqu'il était prévenu par Dieu, mais il n'a rien dit. Il y est allé volontairement, et puis il s'est laissé faire, acceptant son épreuve, un peu comme Christ. Qui s'est laissé conduire comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, Paul s'est laissé prendre comme ça, de la même manière. Et il y a deux choses que j'aimerais que l'on voit ce matin. La première chose, c'est l'importance d'accepter son épreuve. Parfois, on a des épreuves difficiles. Accepter, première chose. Et la deuxième chose, c'est l'idée qu'on peut tirer parti, on peut tirer profit de son épreuve. Première chose, accepter nos épreuves. Parfois, on se dit, mais pourquoi je suis en train de vivre ce que je vis là ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre plan ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin possible ? Quelque chose qui soit plus agréable ? Puisque Dieu peut tout changer, pourquoi il ne change pas les choses ? Et ce n'est pas facile, mais on voit que c'est... ce qui est touchant, c'est Paul qui accepte. Il ne va pas chercher un autre chemin, il va rester dans le chemin que Dieu lui montre. Il aurait pu essayer de trouver un chemin plus facile, mais non, il reste dans ce chemin. Il a fait ce que Dieu voulait. Alors attention, je mets une mise en garde ici. ça ne veut pas dire que obligatoirement la volonté de Dieu, c'est ce qui est difficile. Que la volonté de Dieu, c'est là où on va souffrir. Parce que des fois, on peut se dire, bon ben, voilà, c'est comme ça. Je vais devoir souffrir, il faut que je m'y habitue. Et Dieu, eh bien, veut que je souffre, c'est pour ma sanctification. Non, il y a une différence entre savoir que Dieu veut que nous passions par un chemin et puis s'enfermer soi-même dans un chemin en imaginant que c'est Dieu qui le souhaite pour nous. La volonté de Dieu n'est pas obligatoirement souffrance et difficulté et douleur. La volonté de Dieu, heureusement, elle est aussi parfois agréable, elle apporte beaucoup, hein. Elle peut même cadrer avec ce à quoi on aspire, c'est possible. Donc, que le Seigneur puisse nous donner du discernement pour savoir, eh bien, Seigneur, qu'est-ce que tu veux réellement ? Mais ici, Paul savait que Dieu voulait qu'il prenne cette direction et il a obéi à la volonté de Dieu. Même si c'était difficile, ce n'est pas dérobé, il a choisi de faire la volonté de Dieu. Et pour d'autres, dans l'Ancien Testament, j'aimerais donner des exemples de personnes qui ont subi des circonstances qui étaient difficiles et qui s'avéraient être la volonté de Dieu pour eux. Par exemple, on a Joseph dans le livre de la Genèse. Donc Joseph, fils de Jacob, qui va être vendu comme un esclave par ses frères. Et on peut se dire, mais quelle situation difficile, quelle situation incompréhensible et injuste. C'était profondément injuste. Il est donc victime de la jalousie de ses frères, jalousie qui finalement, c'est quoi à la racine, hein? Une des choses en tout cas, c'était les rêves qu'il a fait. Voilà, rêve que Dieu lui a donné. Mais ça a provoqué de la jalousie et il se retrouve seul, loin de sa famille, rejeté et esclave. Mais ce qui est touchant dans cette histoire, c'est que l'injustice et l'épreuve n'ont pas entamé la foi de Joseph. Il est toujours quelqu'un qui fait confiance à Dieu, malgré ce qu'il vit, il reste fidèle à son Dieu. Notamment dans la maison de Potiphar, il aurait pu se dire « Dieu m'abandonne, je l'abandonne hein ». Puisque c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir quand on se retrouve comme ça, vendu par ses frères, ennemi. Mais non, Joseph va rester fidèle, va rester intègre, attaché à son Dieu. Ensuite, il se retrouve 2 ans en prison, on l'oublie. Il pourrait se dire, ah ben mince, hein, Dieu m'abandonne, je l'abandonne. On peut avoir cette réaction. Hein. On se dit, puisque ça ne se passe pas comme je pensais que ça se passerait, alors ben moi, je me permets de devenir infidèle et de ne pas faire la volonté de Dieu. Un autre exemple, c'est David. Donc, il est oint par Samuel pour devenir roi d'Israël, mais son accession au trône, elle tarde. David est au contraire maltraité, poursuivi par Saül, le roi en place. Et ça ne dure pas 1 mois ou 2, ça dure plusieurs années, entre 6 et 8 ans, je lisais. Pendant 6 à 8 ans, persécuté, rejeté, haï par le roi. Mais David ne se rebelle pas contre Dieu. Il aurait pu se décourager et dire, « Bon Seigneur, la royauté, non merci. Hein. C'est bon, hein. Moi je prends un autre chemin. Je prends un autre chemin, puisque c'est trop de souffrance, alors je ne veux pas de ça. » Mais David n'a pas eu cette attitude de cœur, non. Il ne comprend pas tout, mais il accepte. Et même quand il y a Shimei qui est sur une colline là et qui est en train de le maudire, « Tu es maudit !» À ce moment-là, David dit, s'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi ? Il va empêcher les fils de Tserouja d'aller couper la tête de Shimei. Et donc, David accepte son sort. Voilà, il dit, bon, voilà, Dieu a permis, Dieu est là, Dieu conduit. Un autre exemple, c'est celui de Ruth. Donc Ruth, la Moabite, donc l'étrangère, qui va épouser un Israélite et qui donc va être dans cette famille israélite. Et à ce moment-là, avant qu'elle ait pu avoir un enfant même avec son mari, donc dans la famille, le beau-père meurt, le beau-frère meurt et son mari meurt. et elle se retrouve avec sa belle-mère. Toute la famille aimait l'Éternel et poussait Ruth à aimer l'Éternel aussi. Mais le malheur s'abat sur eux. Et pourtant, Ruth, après cela, ne dit pas, bon, ben, l'Éternel, hein, j'ai vu ce que ça amène de croire en l'Éternel. Hein, ce n'est pas la peine. Moi, je préfère retourner vers mes dieux. Non, ce n'est pas du tout sa réaction. Elle va au contraire décider d'aimer l'Éternel davantage et de servir l'Éternel davantage. Et ces exemples, tous ces exemples nous montrent que les épreuves ne devraient pas nous éloigner du Seigneur, mais au contraire nous en rapprocher. Combien de fois nous ne sommes pas dans l'une de ces situations et on peut avoir l'impression que Dieu nous a oubliés en chemin. Et parfois notre cœur ne réagit pas de la bonne manière. Je me souviens personnellement, dans le passé, des situations où j'ai vraiment pas bien réagi, quoi. J'étais très très en colère contre Dieu. Enfin, c'est incroyable, quoi. Hein. J'ai même, c'est pas des choses à faire, mais pour vous expliquer que parfois on peut tomber. J'ai lancé un cantique contre le mur, hein, qui s'est bam, c'est abîmé. La méchanceté qu'il y a dans notre cœur. Heureusement que Dieu est plein de compassion, qu'il est plein de miséricorde, qu'il pardonne, qu'il, hein, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Sinon, ce serait terrible. Mais tout ça pour dire que parfois, dans notre cœur, il peut y avoir de l'amertume, de la colère, de la rébellion, des réactions qui ne sont pas belles. Pourquoi ? Parce qu'on n'accepte pas les circonstances et les épreuves que Dieu permet dans notre vie. Parfois, ça se traduit par même de l'infidélité. Hein ? On lâche la main du Seigneur et on commence à retourner vers le passé. Mais par ces exemples que l'on vient de voir, Dieu nous montre qu'il y a un autre chemin possible. C'est celui de l'acceptation de l'épreuve, à l'image de notre Seigneur lui-même, qui lui a accepté la mort sur la croix, qui s'est laissé conduire. Et on doit être convaincu que Dieu n'agit pas sans raison. Il a une raison qui est sage, qui est bénéfique, qui est nécessaire. On chante ce cantique « Jésus fait bien tout ce qu'il fait ». Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Mais est-ce qu'on croit vraiment que Jésus fait bien tout ce qu'il fait ? Parfois, on doute, hein ? On doute. Mais ça, c'est la réalité. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il est écrit « Il fait tout à merveille ». Dans notre traduction, c'est ça, hein ? Il fait toute chose bien. Et on peut dire que Dieu est comme un chirurgien avec nous. Il est très précis dans ce qu'il fait, il calcule, il pèse chaque chose. Et lorsqu'il dit que même nos cheveux sont tous comptés, ça montre la minutie avec laquelle il se soucie de chacune de nos âmes. Parce que si Dieu s'intéresse à nos cheveux, hein, c'est pour nous montrer surtout qu'il s'intéresse aux sentiments de notre cœur et à ce qu'on ressent. Et il regarde à l'intérieur, et il aime, il voit nos âmes. Qu'est-ce que c'est les cheveux ? Hein, c'est pas grand-chose. Hein. En faisant ce message, je me disais, pour certains, Dieu les compte, et pour d'autres, Dieu les décompte. Hein, ça dépend. Mais pour dire que les cheveux, ça compte pas à grand-chose. Hein, voilà, ce qui compte, c'est que Dieu aime notre âme. Dieu se soucie de notre âme. Et il s'intéresse à notre âme. Pourquoi ? Parce qu'elle vaut le précieux sang de Jésus-Christ. S'il a versé son sang pour notre âme, combien notre âme est précieuse, combien elle compte. D'abord, accepter l'épreuve. Et ensuite, tirer profit de l'épreuve. C'est la deuxième chose qu'on peut retenir de notre passage ce matin. C'est tirer le positif, tirer le meilleur parti de ce que nous vivons. Parce que c'est ce que Paul va faire dans ce passage. Et j'aimerais revenir sur ces exemples que je viens de citer. Par exemple, David. Il a vécu ce temps difficile avec Saül. Avec, avoir une lance qui se plante juste à côté de sa tête. À être pourchassé. C'était pas simplement un problème relationnel. Mais c'était carrément des persécutions. Mais David nous montre l'exemple d'un homme qui s'est rapproché de Dieu d'une manière admirable. Et on le voit notamment par tous les psaumes qu'il a écrits. Il ne va pas tomber hein, et rejeter le Seigneur. Au contraire, il va se rapprocher de Dieu et il va écrire des cantiques, il va déverser, épandre son âme hein, devant le Seigneur. Et c'est beau quand on lit les psaumes parce qu'on voit souvent, ça peut commencer avec la souffrance qui est exprimée, parfois son incompréhension, et puis ça se termine souvent avec des paroles de foi et de confiance. Il commence comme ça et il dit « Oui, je me confierai en l'Éternel. Oui, je croirai en l'Éternel. » Et c'est une des caractéristiques de celui qui prie, la personne qui prie. Au commencement, on verse nos sentiments devant le Seigneur, on lui dit tout ce qu'on vit, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu nous relève, nous fortifie, et nous redonne du courage. David souffre, alors David prie. Est-ce que ce n'est pas exactement ce que le Seigneur nous dit hein? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie, qu'il se rapproche de son Dieu. Et David tire parti de sa souffrance pour se rapprocher du Seigneur. Et c'est peut-être ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. C'est qu'on se rapproche encore plus du Seigneur. Mais on peut regarder aussi l'exemple de Joseph. On peut dire que lui aussi a tiré parti de son épreuve. Il se retrouve chez Potiphar, il devient son meilleur intendant. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Ça s'est fait parce que Joseph était proche de Dieu, Dieu était proche de Joseph. Et la grâce et la bénédiction étaient sur Joseph. Hein. Et c'est comme ça qu'il est devenu le meilleur esclave de la maison et que Potiphar finalement l'établit sur tous ses biens. Et Joseph aurait pu se morfondre, il aurait pu murmurer d'une telle épreuve. Mais au contraire, il s'est confié en Dieu, il a travaillé mieux. Il est devenu un meilleur ouvrier. On vient d'aller à une retraite, là, et c'était intéressant de parler avec deux chrétiens, enfin, un chrétien que je connais, qui est bulgare. Il travaille dans le bâtiment. Et il a un frère qui travaille aussi dans le bâtiment, dans la même entreprise. Alors, je lui demande, comment va ton frère? Et il me dit, écoute... ça va bien, mais on a été séparés. On était à deux sur un chantier, mais finalement, on a été séparés. Alors, je lui dis, mais pourquoi ils vous ont séparés? Il me dit, parce que sinon, il n'y a qu'un chantier qui avance. Parce que eux, ils ne parlent pas, ils travaillent, ils sont consciencieux, persévérants, voilà, des bosseurs. Et donc, les deux ensemble, le chantier, ils fusent. Alors, on les sépare pour que les deux chantiers avancent. Hein. Parce que les autres murmurent contre l'entreprise, etc. Et on peut tirer parti des choses qui sont difficiles pour faire ce qui est bien, pour honorer l'Éternel. Mais Joseph ne s'arrête pas là. Peu de temps après, c'est une autre injustice, hein, et il se retrouve en prison. De nouveau en prison, parce qu'il aurait pu dire « mince Seigneur, c'est pas vrai quoi hein. ». Je croyais que finalement, le ciel devenait bleu, mais non, de nouveau, une autre claque. Mais Joseph est avec Dieu, Dieu est avec Joseph. Et le résultat, c'est que le chef de la prison ne tarde pas à voir qui est Joseph et à mettre sous sa surveillance tous les prisonniers de la prison. Et ça va être l'occasion pour lui d'apprendre à gérer des hommes, et des hommes pas faciles. Mais il apprend, encore une fois. Et c'est beau parce que Joseph aurait pu tomber dans le mutisme, être comme mort, en disant, maintenant, entre quatre murs, dans une prison. Mais il va préférer servir l'Éternel et faire ce qui est bien. Et à ce moment-là, Dieu va se servir de lui. Il est dit, l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Et finalement, en ayant tiré parti des choses qui étaient difficiles, de ces épreuves, Dieu va façonner Joseph et le préparer pour une œuvre qui était plus grande, c'est-à-dire régner, gouverner toute l'Égypte. Joseph a tiré parti de ces épreuves. Et en faisant ce message, je pensais à un autre homme qui était bien éprouvé, mais qui garda le silence et on n'en parle presque pas. Même, je ne pense pas qu'on en parle, en tout cas de cet aspect de sa vie. C'est Josué. Pourquoi ? Parce que Josué, il est aux portes du pays de Canaan. Il entre comme étant espion pour Israël. Il voit le pays, il dit « c'est merveilleux, pays où coule le lait et le miel, etc. » Il revient, il dit « c'est merveilleux, il faut y aller, l'Éternel est avec nous. » Et là, il y avait davantage d'hommes qui murmurent. Il n'y avait que lui et Caleb qui étaient positifs. Et puis les autres hommes qui commencent à murmurer. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, ben maintenant, demi-tour droite, vous retournez et vous allez tourner dans le désert. Vous imaginez l'épreuve pour Josué et pour Caleb? Ils étaient prêts. On fait la volonté de Dieu. On y va. On va goûter à tout ce que Dieu veut pour nous. Et non, on va aller dans le désert et on va tourner pendant 40 ans. Quelle épreuve! Quelle épreuve pour eux de devoir vivre cela alors qu'ils étaient prêts. Quelle frustration! Mais on peut dire, Josué a su aussi tirer parti de ce temps en servant le Seigneur et en servant Moïse, puisqu'il était tout le temps avec Moïse. Et ce n'était pas en vain. Le fait qu'il accepte cette situation qui était insensée, qui était déraisonnable, mais quelle raison d'être en apparence que de retourner dans le désert, Seigneur, alors que c'est là, il n'y a qu'à y aller. Mais Dieu va le préparer petit à petit pour après devenir celui qui va conduire Israël. Mais on peut terminer avec l'apôtre Paul, qui nous a montré qu'il savait tirer parti des situations qui étaient éprouvantes. Parce que c'est ce qu'il va faire dans le livre des Actes. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors qu'on est en train de... On vient de le battre. On est en train de crier « Tue-le hein, !» comment il dit ?« Fais-le mourir !» À ce moment-là, Paul dit au tribun, il a des chaînes. Il dit « Est-ce qu'il m'est permis de te dire quelque chose ?» Alors ensuite, il lui dit « Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Et on le voit, eh bien, voilà, s'appuyer même sur cette situation, se relever et dire « Je vais tirer parti de cela. » Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner son témoignage, parce que c'est son témoignage, à ces milliers de Juifs qui sont là. Et puis quand il se met à parler en langue hébraïque, tout le monde se calme. Et là, il raconte son témoignage. Et il parle de Jésus-Christ de Nazareth, hein, et de comment eh bien, il s'est converti à Jésus-Christ, hein, avec cette vision sur le chemin de Damas, aux hommes qui venaient de le frapper, qui venaient de le persécuter. Alors que, eh bien, on pensait que ben, voilà, c'était fini, là. Non, il va s'appuyer sur ça, il va dire, mais ils vont entendre le message de l'Évangile. Et c'est assez incroyable. Alors que tout semble noir et sans espérance, il y a peut-être moyen de tirer du positif, quelque chose de bon, hein, de tirer parti de notre situation présente. Et on voit que Paul avait pris cette habitude d'être positif. Au lieu de s'abattre, de se décourager dans des situations, non, il se relève, il dit, mais voilà, on va tirer quelque chose de bon. Par exemple, un petit peu plus tard, donc on avance, finalement, il se retrouve à Rome, en prison, et il garde une attitude optimiste. Regardez Philippiens, chapitre 1, 12 à 14. Philippiens 1, 12 à 14. Il dit... Je veux que vous sachiez, frère, donc il est en prison, hein. Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Et c'est beau ici. Donc, il est dans les liens. Mais il est content parce que bien, l'Évangile continue à se répandre, même si lui, il n'est pas là. Et c'est justement parce que lui n'est pas là que l'Évangile continue à se répandre. Et on voit, il dit que son emprisonnement a permis à d'autres eh bien, de se lever et de commencer à proclamer la parole. Le fait qu'il soit absent a contribué au progrès de l'Évangile. Ensuite, Philippiens, toujours versets 15 à 19. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe ? De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et là, on voit de nouveau, Paul refuse le fatalisme et le découragement. C'est vrai que du fait de son absence, eh bien, il y avait des personnes bienveillantes qui annonçaient Christ, mais il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas très bienveillantes, qui étaient même méchantes. Et il faut croire qu'ils se sont dit, Paul n'est pas là, tant mieux. On va essayer d'attirer, tirer la couverture vers soi, essayer d'attirer les âmes vers soi. Il n'y avait pas un bon esprit. Peut-être même qu'il y avait un point de doctrine, quelque chose qui était différent de l'apôtre Paul. Et Paul était impuissant, ne pouvait rien faire. C'était comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, l'évangile est prêché, je suis content. Qu'importe, ils le font avec un mauvais esprit, peut-être ils me critiquent, peut-être ils disent des mauvaises choses, mais qu'importe, que Dieu les bénisse et que l'évangile progresse, avance, que des âmes soient sauvées. Et on voit que bien qu'il soit en prison, il se réjouit et il se dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais il n'y a pas que là où Paul nous montre son bon esprit qui finit par tirer le positif. Paul est aussi celui qui souffre et qui a souffert pendant plusieurs années. Et on peut se dire, mais comment tirer le positif quand on souffre? Quand on souffre dans sa chair ou quand on souffre dans son âme, comment réussir à tirer du positif? Eh bien, là aussi, Paul nous montre un exemple. Regardez 2 Corinthiens, c'est un petit peu plus loin. 2 Corinthiens, quelques pages plus loin. Non, pardon, avant. Qu'est-ce que je dis? 2 Corinthiens, quelques pages avant, chapitre 12 et versets 7 à 10. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Paul a compris que nos souffrances nous conduisons dans un état de faiblesse, nos souffrances permettent, pour celui qui les vit de la bonne manière, de se confier en Christ et de recevoir sa puissance. Christ repose sur cette personne. Et cette écharde qu'il avait dans la chair, ce n'était pas une petite chose, un petit problème. Parce que Paul a prié, il a réclamé, « Seigneur, délivre-moi, s'il te plaît !» 3 fois, il a réclamé de tout son cœur. Et quand Paul priait, Dieu exaucait. Chaque fois que Paul priait, Dieu exaucait. Paul était en communion. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais là, Dieu ne répond pas. Et Dieu ne répond pas. Et une troisième fois, Dieu ne veut pas guérir cette infirmité. Alors, il accepte. Et il se confie davantage dans le Seigneur. Il supporte cette infirmité. Et c'est là où ça se transforme et il finit par voir « Mon infirmité est une bonne chose. » Et tout ce qui lui causait même des souffrances après, comme les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses, tout cela, ça l'amenait davantage vers le Seigneur. Alors, il dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il se dit, mais c'est là ma bénédiction, finalement. Permettre que je sois dans un état de faiblesse afin que Christ soit avec moi. Et si on est affaibli, cet affaiblissement est probablement pour la gloire de Dieu. afin qu'on se rapproche plus de lui et que lui nous remplisse davantage. Et il faut bien garder à l'esprit que la chose la plus importante pour le chrétien ici sur cette terre, c'est de connaître Christ, c'est de gagner Christ et c'est d'être trouvé en lui. Ça, c'est le plus important pour chacun d'entre nous. Connaître Christ, gagner Christ, être trouvé en lui. C'est ce que Paul dit aux Philippiens. Il dit « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. » Donc connaître Christ, gagner Christ, être trouvé en lui. Connaître Christ d'abord, c'est pas simplement avoir une connaissance intellectuelle. On peut avoir une connaissance de Jésus parce qu'on a lu les évangiles, parce que eh bien on connaît des prophéties, on sait qui est Jésus. Mais il faut, c'est pas simplement ici, c'est une connaissance du cœur. C'est une connaissance intérieure. Cette connaissance, c'est une connaissance qui vient par la vie et par les expériences de vie avec le Seigneur. Et c'est justement au travers des circonstances et des souffrances, au travers de la prière exaucée, des exaucements, de la supplication, au travers des délivrances, au travers des larmes, au travers de la joie qu'on expérimente avec le Seigneur. C'est au travers de toutes ces choses qu'on apprend à connaître Christ et qu'on connaît Christ. C'est une connaissance pratique qui vient par la marche en Christ. Une connaissance intérieure qui va développer un amour pour Christ. Connaître Christ et gagner Christ. Gagner Christ, c'est prendre possession de notre nouvelle vie en Christ. Jésus est mort pour nous afin qu'il puisse vivre en nous. Et c'est la chose la plus importante. On peut tout perdre, mais si on gagne Christ, on a tout. On a l'essentiel. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que notre vie nous mène à gagner Christ, afin que Christ soit davantage, plus pleinement, plus profondément ancré dans notre âme, qu'il ait notre cœur. C'est là le bonheur, hein? C'est là où nous avons tout, gagner Christ. Et c'est vrai que parfois Dieu peut permettre qu'on perde quelque chose, qu'on perde un bien, qu'on perde un proche, qu'on perde la santé. Il permet qu'on perde des choses, mais le but, c'est quoi? C'est gagner Christ. C'est de vraiment gagner Christ. Qu'il soit vraiment en nous, qu'il vive plus abondamment en nous. C'est l'objectif principal que Dieu a pour nous. Alors, bien sûr, on vit, on agit, on travaille, on fait des choses, hein? Mais dans toutes ces choses, le but, c'est qu'il croisse et que nous diminuions et que Christ, voilà, il soit en nous, on l'ait gagné. Et puis enfin, être trouvé en lui, ça c'est l'aboutissement que le Seigneur vise pour nous, pour chacun d'entre nous. Le Seigneur veut que nous soyons trouvés en lui quand il reviendra. Le Seigneur veut qu'on soit en lui et pas dans notre justice ou nos œuvres charnelles. C'est pour ça qu'il faut qu'on connaisse Christ et qu'on gagne Christ afin d'être trouvé finalement en lui, vraiment. Et notamment, eh bien, c'est par les souffrances qu'on le connaît davantage, par les souffrances qu'on le gagne davantage. Ces souffrances qui vont nous enraciner dans sa personne, qui vont faire qu'il va grandir en nous. Et du peu que je peux vivre, ou de ce que je peux lire ou comprendre des souffrances qui sont permises par le Seigneur, ce que je comprends, c'est qu'il y a des phases. Il peut y avoir des phases. Il y a l'incompréhension. On est dans l'incompréhension. On peut tomber dans la phase de l'amertume, parfois. On peut tomber dans la phase de la colère, même. On peut souvent tomber dans le découragement. Mais finalement, petit à petit, le Seigneur fait une œuvre dans notre cœur, puis vient l'acceptation, le renoncement, la mort à soi-même et finalement la joie. La joie qui vient de Christ, malgré l'épreuve, dans l'épreuve, la joie du Seigneur. Et c'est parce que l'apôtre en est arrivé là, l'apôtre Paul, qu'il dit « Je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les outrages, je me plais dans les calamités, je me plais dans les persécutions, etc. » C'est parce que il est passé par ces phases et il est arrivé là où c'est Christ, il a gagné Christ. Et alors Christ l'aide, il ne porte rien et il est dans la joie malgré tout du Seigneur. Il a vu le gain qu'il y avait derrière ces choses. Il a offert sa vie au Seigneur et Christ vit plus pleinement en lui. Et peut-être qu'aujourd'hui, on ne voit pas le positif de ce que nous pouvons souffrir, mais Dieu veut nous conduire finalement à en tirer parti. Et je me disais, mais quel bel exemple que Nick Vujicic. Je vous en avais parlé, c'est Nick Vujicic, ça vous dit quelque chose? Cet homme, maintenant jeune homme, peut-être il a 25-30 ans, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes. C'est un tronc et une tête, c'est tout. Avec un petit moignon qui lui permet d'être debout. Nick Vujicic. Et pourtant, il sert le Seigneur dans la joie de son salut. Et c'est épatant de voir des vidéos ou des photos où il est là, rayonnant de la paix et de la joie du Seigneur. Maintenant, il ne faut pas croire. Ah oui, son petit slogan, c'est « sans bras, sans jambes, sans soucis ». Oh Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Et il ne faut pas croire qu'il n'est pas passé par les phases de l'incompréhension, de l'amertume, de la colère, mais finalement de l'acceptation, de la mort à soi-même et de la joie. Et aujourd'hui, on voit l'aboutissement de toute cette œuvre que le Seigneur a fait dans sa vie. Et j'ai vu une photo qui m'a touché. C'est qu'on voit Nick Vujicic, donc il est sur une table, et il y a Johnny Erickson. Vous connaissez Johnny Erickson? Donc c'est cette chrétienne qui a 16 ans, bon maintenant peut-être elle a, je ne sais pas, une soixantaine d'années, à 16 ans, plonge dans une piscine où il n'y a pas assez d'eau, et elle se brise la nuque, elle est tétraplégique, à 16 ans. Et quand vous lisez son témoignage, mais la colère, l'amertume, l'incompréhension, le découragement... Mais après, finalement, l'acceptation et la joie. Et c'est très touchant de voir donc Johnny Erickson qui est assise sur son fauteuil roulant et Nick Vujicic qui penche la tête affectueusement et se touche tête contre tête. Et je me dis, j'étais pas là, mais ils se sont compris tous les deux parce qu'ils ont vécu les mêmes choses. Et aujourd'hui, ils servent tous les deux d'une manière merveilleuse. Ils parcourent le monde, ils témoignent de leur expérience et de ce que Dieu a fait dans leur vie et combien ils aiment leur Seigneur. Et il y a moyen d'être heureux et d'être dans la joie en Christ. Et on peut dire que finalement, Dieu a triomphé dans leur vie. Il a fait d'eux des bénédictions pour des milliers. Ils ont connu Christ, ils ont gagné Christ et ils seront trouvés en lui. Voilà, je m'arrête ici. Il est possible de tirer du positif de ce que nous vivons aujourd'hui. Il est possible d'en tirer parti. Que Seigneur nous aide à lui faire confiance. Il sait ce qu'il fait et il fait bien tout ce qu'il fait.